Chapitre 32. Richard Osland rentre chez lui avec velours, la laisse renifler autour du boîtier électrique, salue le voisin qui se tient à sa fenêtre, puis passe le portail menant à la rangée de maisons mitoyennes. La chienne s'arrête sur le tapis du hall d'entrée et attend patiemment que Richard lui essuie les pattes avant de se diriger d'un pas lourd vers la cuisine. Kenneth ne finit son service à l'hôpital de Dunderhead qu'à 10 heures. Le manque d'infirmiers le force à travailler beaucoup trop. C'est bon pour leurs finances, mais pas pour grand-chose d'autre. Ils sont ensemble depuis 6 ans et mènent ce qu'ils appellent leur vie de monsieur et madame tout le monde. Mais en réalité, ce n'est plus le cas. En hiver, Kenneth tombe dans de profondes dépressions et un soir de février, il y a presque 1 an, il a fait une overdose de somnifères. En rentrant du travail, Richard l'a trouvée étendue sur le sol, à côté du lit, de la mousse blanche au coin des lèvres et le visage gris. « Merci, mon Dieu, pour le charbon actif !» plaisante parfois Kenneth. Depuis, il prend des antidépresseurs et ils ont tourné la page. Mais Richard se sent toujours profondément trahi. Il se change, prend l'enveloppe contenant l'argent liquide, glisse les billets dans son portefeuille, puis récupère son Glock 45 dans le coffre-fort. Autrefois, il rêvait d'une retraite anticipée, s'installer à Palma, lire un polar sur le balcon, un verre de rosé frais à la main. Aujourd'hui, Richard se sent triste en repensant à ce rêve. Kenneth n'y est pour rien. On ne choisit pas de souffrir de troubles mentaux. Richard lui-même a connu de sérieux troubles alimentaires quand il était jeune. Mais il a eu la chance de trouver de l'aide dans une clinique spécialisée. Il s'est rétabli en 3 ans. A commencé à faire du sport et s'est inscrit à l'école de police. Il regarde l'heure, se prépare une tartine au fromage qu'il mange debout dans la cuisine et remplit la gamelle de velours au moment où Yuna l'appelle pour lui dire que l'équipe est en place. Il quitte la maison, va jusqu'au parking, s'installe dans sa voiture et prend la direction du sud, vers l'Inninge. Avant d'arriver, il a prévu de s'arrêter en chemin pour enfiler son gilet pare-balles, car Jezebel pourrait très bien surveiller son arrivée à l'hôtel. Le groupe d'intervention et les tireurs d'élite sont en poste, prêts à intervenir rapidement. Au signal, ils bloqueront toutes les routes menant à l'hôtel. Le plan est précis. Richard entre, réserve une chambre et envoie un SMS à Jezebel pour lui donner le numéro. Il garde la porte verrouillée et lorsqu'elle frappe, envoie une alerte sur Raquel. 2 groupes d'intervention pénètrent aussitôt dans l'hôtel équipés d'armes lourdes et de grenades aveuglantes pour procéder à l'arrestation. Si elle tente de forcer la porte avec une hache avant que les collègues n'arrivent, Richard tirera autant de fois que nécessaire pour l'arrêter. Il s'interroge. Pourquoi préfère-t-il jouer les appâts pour une tueuse à la hache, être le ver au bout de l'hameçon, plutôt que de passer une soirée avec son compagnon? Ça fait bien sûr partie de son travail, mais quelque chose s'est brisé entre lui et Kenneth. Ces derniers temps, ils sont trop fatigués pour faire l'amour. En réalité, Richard avait prévu un dîner romantique ce soir, mettre une jolie nappe et des serviettes en tissu, allumer des bougies et cuisiner le plat préféré de Kenneth. Mais le voilà assis dans sa voiture, son pistolet sur le siège passager, avec une angoisse grandissante dans le creux du ventre. Il roule sur l'autoroute le long d'un mur anti-bruit. Il approche de la Hell quand le téléphone prévu pour communiquer avec Jezebel émet un signal. Il se range sur la voie de droite, prend la sortie, se gare près d'un restaurant Max Burgers et lit le message.
Bonjour, je suis obligé de changer d'endroit. J'espère que tu n'es pas encore à l'Inninge. J'ai réservé la chambre 111 à l'hôtel Norort, à Vallentuna. Si ce n'est pas possible pour toi, je dois malheureusement annuler.
Ça me va.
Viens dès que tu peux. Le code de la porte est 1939.
Richard fait demi-tour et repart vers le nord. Il appelle Yuna pour le prévenir du changement de plan.
On annule toute l'opération, rentre chez toi, dit Yuna.
Je suis presque arrivé. On n'aura pas d'autre chance. Je l'arrête et j'attends que vous arriviez. Venez aussi vite que possible.
Ok. Écoute, on vient. Mais attends dehors. N'entre surtout pas. Tu es là uniquement pour observer.
Juste après avoir quitté la route de 164, Richard Roslund s'arrête sur le bas-côté, sort de la voiture, enfile son gilet pare-balles par-dessus sa tête et ajuste l'étui de son arme de service. Il enfile ensuite une veste coupe-vent noire, ferme le zip à moitié, se rassied et repart.
L'hôtel se dresse tel un énorme bloc d'aluminium au milieu d'une zone industrielle déserte.
Derrière les hauts grillages, on aperçoit de grands bâtiments avec des ateliers, des grossistes en sanitaire et en tôlerie. La lumière jaune d'une station-service automatique se reflète sur l'asphalte et des drapeaux flottent mollement dans le vent. Aucun passant en vue. Richard entre sur le parking et se gare. L'entrée vitrée de l'hôtel dépasse légèrement de la façade. Un renard émacié traîne le cadavre d'une corneille vers le fossé. Il y a 30 kilomètres entre ici et l'hôtel de Lininge. Il est en train d'estimer que les premiers renforts devraient arriver dans 25 minutes lorsqu'il reçoit un message de Jezebel. « J'ai besoin de savoir si tu viens. Attends-moi, j'arrive bientôt. » Richard passe sa radio en mode silencieux et sort de la voiture. La température s'est rafraîchie, mais il ne neigera pas. Le ciel sombre et haut est presque étoilé. Sa respiration forme de petits nuages devant sa bouche. Il ne sait pas s'il est observé et essaie de rester discret lorsqu'il photographie les deux autres voitures garées sur le parking. Un semi-remorque passe sur la route principale. Le sol vibre et les phares balayent la façade de l'hôtel. Richard se sent lourd et un peu engourdi à cause du gilet pare-balles. Il s'approche de l'entrée, tape le code à 4 chiffres et entre. Le hall est vide et spacieux. Les grandes baies vitrées donnent sur le parking et un escalier en colimaçon mène à l'étage. Devant la réception, un tas de décorations de Noël traînent au sol. Des bougeoirs électriques, des guirlandes, des sapins en plastique, des cartons remplis de boules rouges et de Père Noël. Le seul bruit est le souffle léger provenant du système de ventilation. Il n'y a pas âme qui vive. Richard suit les panneaux et passe devant un restaurant modeste avec des tables nues, des chaises sans coussin, un buffet en inox avec cafetière et micro-ondes. Une porte vitrée mène à une terrasse pavée donnant sur la grande route et sur une usine de plastique. Il pénètre dans un couloir sombre. L'éclairage au plafond est si faible qu'entre deux lampes, le sol disparaît sous ses pieds. La rangée de portes grises, avec des plaques numérotées, défile dans un rythme hypnotique. Chambre 131, 130, 129. Après un moment, il comprend que cette sensation un peu cotonneuse vient de la moquette marron qui étouffe ses pas. Quelqu'un pourrait marcher juste derrière lui sans qu'il ne l'entende. Une angoisse lui serre la poitrine. Il s'arrête, jette un coup d'œil par-dessus son épaule, puis continue. Un chariot de ménage bloque le passage. Il doit le pousser légèrement pour se faufiler. Une pile de serviettes propres tombe au sol. Richard regarde autour de lui et repense à l'annonce avec la jolie fille et ses fossettes. Jezebel. La photo n'a peut-être rien à voir avec la personne qu'il va rencontrer. Mais selon les témoins, elle agit seule. Aucun complice n'est mentionné. Une sale pute, a dit une des victimes. Aussitôt, une autre image surgit dans l'esprit de Richard. La jolie fille ne sourit plus. Son visage est fermé, sa mâchoire avancée. Elle mesure presque 2 mètres et tient une lourde hache si fermement que ses jointures blanchissent. Elle a des centaines de petites taches rouges sur le front, comme si elle avait traversé une fine pluie de sang.